l'atelier du pouvoir.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question « Mais qu'est-ce qui vous légitime ?»
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux,
la France,
dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue.
C'est pas la gauche.
Pourquoi pas de la fête,
la France,
et de la liberté.
C'est pas la droite, la France.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer.
La politique dans une démocratie, c'est l'honnêteté et le respect de l'autre. La fin ne saurait en aucun cas justifier les moyens.
L'atelier du pouvoir, Vincent Martini, Thomas Vider.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Thomas Vider, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver pour un nouvel Atelier du Pouvoir, l'émission qui chaque samedi sur France Culture de 12h50 à 13h30 vous emmène dans les coulisses de la vie politique pour mieux comprendre ses institutions, ses figures, son imaginaire et ses structures. Alors cette semaine, eh bien, c'est depuis Bordeaux que nous avons le grand plaisir de faire cette émission. Bordeaux où, vous le savez, France Culture a déposé ses bagages depuis avant-hier dans le cadre des rencontres internationales du Forum d'Avignon, les 8e du nom, organisées cette année au Grand Théâtre de Bordeaux sur le thème « Entreprendre la culture ». Grand Théâtre de Bordeaux où nous nous trouvons donc, nous aussi, mon cher Vincent, pour nous intéresser au pouvoir culturel et plus exactement au rapport qu'il entretient aujourd'hui avec l'État dans le cadre d'une mondialisation où la fameuse exception culturelle à la française reste, il faut bien le dire, souvent menacée.
Il est de bon ton, surtout à l'approche d'une campagne électorale, de vanter les mérites de la culture française. Après tout, s'il est un domaine qui se porte bien en France, c'est celui-là. La France demeure, aux yeux du monde, un pays à la culture rayonnante qui continue de générer admiration et envie de la part de nos voisins devant les moyens importants investis par l'État dans l'action publique culturelle. Près de 16 milliards d'euros en 2014, État et collectivités locales confondus. Notre pays a en outre su allier depuis longtemps la protection du service public et l'initiative privée pour promouvoir la culture nationale. Le secteur du cinéma n'est-il pas le modèle parfait d'un succès de partenariat public-privé entre le Centre National du Cinéma et des groupes internationaux comme Pathé ou MK2 pour une production cinématographique diversifiée ? Tout cela est juste, mais il n'en reste pas moins que le rapport de force entre l'action publique et des industries culturelles en pleine explosion dans le monde contemporain pose des questions nouvelles. Celle du rapport entre économie et culture à une époque où il est de bon ton de vanter les retombées économiques de l'investissement culturel avec une tendance à oublier un peu vite qu'en France, on a longtemps dit que les biens culturels n'étaient pas des marchandises comme les autres. Celle du rôle des États face à des groupes internationaux géants qui pèsent des dizaines de milliards d'euros, les fameux GAFA en tête, Google, Amazon, Facebook, Apple, 1650 milliards de dollars en 2015, qui dictent des lois à un marché dont les enjeux sont tels que les moyens de l'État semblent en comparaison dérisoires. Celle enfin des modes de régulation européens qui ont été mis en place au moment de ce qu'on a appelé l'exception culturelle en 1993 et qui doivent aujourd'hui être revisités avec le nouveau traité transatlantique de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, TAFTA en anglais, dont la révolution numérique a bouleversé les enjeux. Plus de 20 ans après l'exception culturelle dont vous parliez, Thomas, la culture est-elle devenue une marchandise comme les autres ? Que peuvent les États face à des industries culturelles surpuissantes pour garantir une forme de service public de la culture ? Comment finalement aborder les négociations du TAFTA dont le silence politique assourdissant qui les entoure devrait nous alerter ? Voici quelques-unes des grandes questions que nous posons aujourd'hui à nos invités dans ce nouvel atelier du pouvoir consacré cette semaine aux relations entre État et industrie culturelle de l'exception culturelle au TAFTA.
Nos invités, je vous les présente. Avec nous aujourd'hui tout d'abord Mathias Feckel, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, du tourisme et des Français de l'étranger. Mais j'ajouterai aussi, c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous aujourd'hui, chargé au nom de la France des négociations donc sur le traité transatlantique de libre-échange, le fameux TAFTA, traité dont vous nous aiderez à comprendre en quoi il intéresse le pouvoir culturel également. Et puis, à vos côtés, Jérôme Clément, président de l'Alliance française depuis bientôt 2 ans, mais avant cela, président d'Arte, et avant cela encore, du Centre national de la cinématographie. Bref, toute une carrière passée à la charnière des pouvoirs culturels et politiques, ce qui fait d'ailleurs l'objet d'un livre tout à fait éclairant et assez personnel que vous publiez ces jours-ci, « L'urgence culturelle » aux éditions Grasset.
ne sont pas des marchandises. Les services de la culture ne sont pas de simples commerces. Défendre le pluralisme des œuvres et la liberté de choix des publics est un devoir. Ce qui est en jeu, c'est l'identité culturelle de nos nations. C'est le droit pour chaque peuple à sa propre culture. C'est la liberté de créer et de choisir nos images. Une société qui abandonne à d'autres ses moyens de représentation, c'est-à-dire les moyens de se rendre présente à elle-même, est une société asservie. Voilà pourquoi la France, et je l'espère, l'Europe tout entière, défendront dans l'actuelle négociation internationale la clause d'exception culturelle, celle-là même qui vient d'être adoptée par les États-Unis à la demande du Canada dans le traité d'échange nord-américain.
François Mitterrand, président de la République, nous étions le 19 octobre 1993. Il était au sommet de la francophonie à l'île Maurice. Il parle de cette fameuse clause d'exception culturelle. Alors c'est assez intéressant, Mathias Fekl, bonjour.
Bonjour.
Quand on entend l'ancien président de la République, on a à la fois l'impression qu'il y a une forme de continuité. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi dans le cadre des négociations du TAFTA. Et en même temps, on a l'impression qu'on est dans un autre siècle, à une autre époque, d'entendre ainsi un président de gauche défendre avec autant d'ardeur l'exception culturelle à la française. Vous avez le même sentiment ?
Non, alors incontestablement, nous sommes dans un autre siècle. Mais l'actuel président, comme d'ailleurs tous ses prédécesseurs, défend l'exception culturelle. Moi, je peux en témoigner sur ce qui relève de mes sujets, notamment du fameux TAFTA. Il y a une constante de la position française sur ce sujet, notamment de la diplomatie française, sur le respect de l'exception culturelle et de la diversité culturelle. Ça a été le cas aussi tout au long du travail qui a conduit au mandat de négociation sur le TAFTA, où à la demande de la France, ce sujet-là est expressément indiqué dans le mandat de négociation. Donc clairement, là-dessus, au plus haut niveau de l'État, il y a une attention particulière.
Alors on y reviendra tout à l'heure dans le détail sur le contenu de ces négociations, mais je précise ma question toutefois. François Mitterrand, on aurait pu vous passer d'autres archives justement de l'ancien président de la République, défendant avec, je disais, la même ardeur cette idée. Ce qui a changé, en revanche, c'est, pour le coup, le relatif silence de l'actuel président de la République. Vous dites peut-être qu'il négocie, etc., mais en tous les cas, ça n'est plus à l'agenda premier de ses préoccupations vis-à-vis de ce qu'il dit au grand public, aux Français notamment.
Peut-être, mais parce que ce thème a conduit à une victoire française. C'est-à-dire qu'un combat qui devait être mené il y a une vingtaine d'années est aujourd'hui gagné. Alors il ne faut jamais baisser la garde, évidemment, parce que beaucoup d'intérêts se mêlent, beaucoup de pays souhaitent qu'on revienne là-dessus, mais il est acquis pour la France et il est acquis pour tous nos partenaires de négociation que cette question de l'exception culturelle aujourd'hui est un acquis et que de toute façon, il ne peut pas y avoir de signature d'accord international dans lequel ce sujet-là ne serait pas respecté.
Jérôme Clément, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Quand on entend Mathias Fekl nous dire... L'exception culturelle, c'est gagné. L'exception culturelle, c'était aussi, finalement, la culture n'est pas une marchandise comme les autres. Et là, aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux, dans un forum qui parle d'entreprendre la culture, d'être à la fois des entrepreneurs culturels. Est-ce que vous avez le sentiment que cette idée que la culture n'est pas une marchandise comme les autres, eh bien ça, c'est gagné ?
Non, pas du tout. Moi, j'ai suivi de très près les négociations de 93 avec François Mitterrand. J'étais avec lui à Gdansk, où il avait aussi fait un discours du même type de celui de l'île Maurice. Mais... il avait une crédibilité, une conviction qui s'entend quand on l'entend, quand on l'écoute aujourd'hui. Mais surtout, c'est parce qu'il avait dit et réalisé le projet socialiste est un projet culturel.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la dimension culturelle de la politique était absolument évidente pour lui. Et surtout, ça voulait dire très clairement que l'économie n'est pas une fin, la culture est une fin. Et que l'économie est au service de la culture. Pour lui, les industries, le commerce, tout ça devait marcher de façon à ce que la société puisse répondre à d'autres besoins humains. Donc c'était un moyen, c'était surtout pas une fin. Et donc en défendant l'exception culturelle, c'était finalement la cerise sur le gâteau, c'était l'aboutissement d'une politique complète. Aujourd'hui, c'est vrai que formellement, comme l'a dit Mathias Fekl, on défend l'exception culturelle dans les négociations. Simplement, tout le reste a disparu. C'est-à-dire que on voit bien que l'économie a envahi complètement la sphère de la société et que la culture est considérée comme un secteur comme un autre qui doit rapporter des investissements, de l'emploi et du revenu. Alors, c'est ça qui va plus du tout. Donc, ça nuit complètement à la crédibilité de la position de la France et d'autres, d'ailleurs, parce qu'au fond, la culture est un paramètre, une variable d'ajustement dans un monde dans lequel la seule préoccupation est la rentabilité, l'attractivité, la production. productivité, j'en passe et des meilleurs. Non, donc c'est ça qui change.
En 1981, Jack Lang avait dit « Économie et culture, même combat ». Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez le sentiment que la culture est devenue un combat économique et pas l'inverse ? C'est ça que vous dites ?
Oui, je dis qu'aujourd'hui, on considère la culture en termes de création d'emplois et de productivité, ce qui est important. Il ne s'agit pas non plus de faire de coupures absurdes entre les deux. Mais ça pose des questions philosophiques, finalement, sur la finalité de la société. L'homme n'est pas seulement qu'un producteur, un consommateur, un client ou un usager, c'est un homme, un citoyen, qui a besoin d'autre chose pour s'épanouir dans la vie. Et c'est ça la culture. Donc c'est pour ça que ça ne peut jamais être un moyen et qu'on ne peut pas accepter finalement que la culture devienne dans les faits une marchandise. Elle ne l'est pas dans les mots et dans les textes, mais de fait elle est en train de le devenir.
La culture variable d'ajustement, disait Jérôme Clément. Il faut voir aussi quand Jérôme Clément, qui est quand même un homme de gauche comme vous, Mathias Fekl, proche du Parti Socialiste, a des mots aussi durs, même s'il le dit dans une langue un peu feutrée ici, mais quand même quand on écoute ce qu'il dit, c'est assez dur. Comment vous réagissez, vous, en tant que socialiste d'une autre génération, Mathias Fekl?
Plusieurs choses. D'abord, j'ai lu attentivement le livre de Jérôme Clément et nous échangeons
souvent. L'urgence culturelle.
Moi, je me retrouve évidemment totalement dans l'idée qu'il ne faut pas avoir une approche exclusivement économique de la culture. Ça, c'est la dérive où, en politique, maintenant, la culture est uniquement appréhendée à travers le biais des industries culturelles, avec d'ailleurs le concept d'industrie créative et culturelle qui mélange dans un même concept beaucoup de choses. La culture, la création et le divertissement, évidemment, mais je ne me retrouve pas là-dessus. Après, j'invite tout le monde à ne pas idéaliser non plus totalement ce qui a été fait dans les générations d'avant. Moi, je fais partie de ceux qui regrettent l'explosion de la télépoubelle, y compris d'un certain nombre de chaînes très précises, dans les années 80 et 90, jusqu'à nouvel ordre. C'est pas François Hollande qui était président de la République à ce moment-là. Donc, faut toujours, quand on regarde, Bergson a écrit beaucoup de choses là-dessus, mais quand on regarde le passé, il faut toujours faire attention de ne pas l'idéaliser totalement.
Ouais,
il y a eu beaucoup de dérives, y compris lorsque la gauche a été au pouvoir de par le passé. Et il y a beaucoup de choses à reprendre. Et dans le projet de politique culturelle, moi je suis tout à fait d'accord pour dire que beaucoup de choses doivent être remises sur le métier, beaucoup de choses doivent être revues, que cette idée que la création est une valeur suprême à mettre à part de tout est aujourd'hui peut-être insuffisamment prise en compte. Parce que c'est une autre époque, parce que les temps ont changé et parce qu'il y a besoin pour les politiques aussi de renouer avec cela dans un contexte différent de décentralisation, de mondialisation qui force aussi à remettre en cause beaucoup de politiques culturelles et la manière dont elles sont mises en œuvre.
Jérôme Clément, vous êtes d'accord, le passé est toujours baigné d'une lumière de légende?
Oui, c'était toujours mieux avant. Dans le temps, c'était mieux.
Bah, c'est un peu ce que vous dites.
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je dis simplement que le monde a complètement changé. C'est même pas un problème de savoir si l'actuel président de la République est le comparer au précédent. C'est pas ça le sujet. Il y a c'est beaucoup plus profond. Il y a une dérive, ou en tout cas une évolution de la société, qui fait qu'aujourd'hui, le libéralisme a gagné. Complètement, le libéralisme est devenu dominant dans la société mondiale. Et à partir de là, tout le reste en découle. C'est-à-dire que ça imprègne pratiquement tout le mode de fonctionnement de la société. Quand on dit libéralisme, ça veut dire aussi la normalisation concernant la culture. Le libéralisme est un rouleau compresseur qui fait que toutes les activités humaines doivent être prises sous l'angle économique.
Mais concrètement, dans la culture, ça prend quelle forme? Quand vous dites ça, c'est un discours à la fois qui semble tout à fait cohérent, mais très général. Concrètement, quelle forme vous avez vu, quelle manifestation?
J'en vois par exemple à Bruxelles. C'est un problème majeur de l'Europe, à mon avis, aujourd'hui. C'est que l'essentiel des combats qui sont menés à Bruxelles ne sont pas pour soutenir l'Europe, mais c'est pour éviter que la direction de la concurrence fasse passer au rouleau compresseur toutes les aides de l'État et tous les systèmes protecteurs, notamment dans le cinéma, qui ont permis à notre cinéma d'exister. S'il n'y avait pas ces systèmes qui mélangent le public et le privé et une protection par la réglementation, on serait en France comme en Italie, il n'y aurait plus de cinéma. Et ça, c'est en train de gagner partout.
Mathias Fekl ?
On est au terme de 30 années de dérégulation à tous les niveaux. Et là-dessus, les politiques ont une responsabilité importante, y compris un certain nombre d'élites social-démocrates européennes ou prétendues telles qui ont totalement intériorisé un certain nombre de dogmes néoclassiques, néolibéraux. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire ça et pour dire aussi que le combat pour ma génération politique est de proposer des choses contre cela, une manière de reprendre la main une manière de permettre à la puissance publique à nouveau de réguler les choses, d'édicter des règles et de les voir respectées. C'est un sujet démocratique majeur et la culture n'en est qu'une des traductions.
Ça suppose une sacrée révision du socialisme aujourd'hui.
Absolument.
Alors Jérôme Clément et Mathias Feckel, on va se retrouver dans un instant, mais évidemment au cœur de tout ce dont nous parlons, il y a la place que peuvent jouer aujourd'hui les États. Et nous allons écouter Jack Lang qui évoquait cela. Ça nous ramène en 1981. Il était tout jeune ministre de la Culture. Il avait fait une sorte de coup d'éclat à l'époque en refusant de se rendre au festival du film américain de Deauville. Jack Lang.
S'il y a guerre, s'il y a hostilité, les hostilités n'ont pas été entamées par nous, mais par l'industrie nord-américaine. C'est elle qui est offensive, c'est elle qui pénètre nos marchés, c'est elle qui veut imposer sa loi. Alors, s'il y a riposte et riposte de la part de nos industries cinématographiques, des industries cinématographiques des autres pays d'Europe, c'est bien normal. La question est posée de savoir si nous acceptons que la France et les autres pays d'Europe soient demain des principautés dépendantes d'un vaste empire multinational, ou si nous entendons préserver notre art de vivre. Je n'ai naturellement pas fait la guerre à l'art américain. J'ai moi-même, dans ma vie, contribué à faire aimer, à faire connaître beaucoup d'artistes américains, des peintres, des hommes de théâtre, des cinéastes. Mais ce que je souhaite, simplement, c'est qu'il y ait un rééquilibrage et que les portes soient largement ouvertes à d'autres cultures, et je dirais à toutes les cultures du monde.
Jérôme Clément, en 1981, vous étiez tout jeune conseiller culture de Pierre Mauroy, donc vous avez suivi ce discours de Jack Lang, ses positions à l'époque des socialistes, de lutter contre ce qu'on appelait à l'époque l'impérialisme culturel américain.
Absolument.
Est-ce que c'était aussi une façon de réagir en tant qu'État, ce qui apparaissait comme un immense marché, c'était ça l'idée ?
Oui, enfin, moi je trouve que ça n'a rien perdu de son actualité. L'impérialisme culturel américain, on l'a vu à l'œuvre en Amérique latine, on l'a vu appuyer des dictatures contre les pays nationaux, et c'est une bataille formidable. Il faut se souvenir que Jacques Valenti, qui présidait la MPEA, qui regroupe l'ensemble de l'industrie cinématographique américaine, menait une guerre sans pitié, et que partout en Europe, les Américains ont cherché à imposer leur système de distribution de films pour au détriment des autres. Ils ont gagné en Espagne, ils ont gagné dans un certain nombre de pays. Donc en 81, la préoccupation était celle-là, c'est de faire que le modèle culturel français, les artistes français, les industries culturelles, et en particulier à l'époque le cinéma, ne passe pas au rouleau compresseur d'un d'échange libéralisé qui aurait démantelé les interventions de l'État.
Donc c'était pas l'État contre les industries culturelles, c'était l'État pour les industries culturelles françaises, un peu contre les industries culturelles américaines.
Bien sûr. Il faut bien comprendre que le système culturel et le mode de production est un système fragile, fait d'artisans, fait de personnes indépendantes, de créateurs, qui sont d'artistes, qui se lancent dans des œuvres souvent originales et audacieuses, sans qu'il y ait un marché. Et s'il n'y a pas de marché, si l'État ne les soutient pas, eh ben ils meurent.
On voit qu'il y a une continuité, évidemment, entre ces années 80, où tout a été, d'une certaine façon, forgé hein, sur ce thème de l'exception culturelle. Mais en même temps, il y a aussi des évolutions. Et en écoutant Jack Lang, je me disais, Mathias Feckel, mais en même temps, est-ce que l'enjeu, il est aujourd'hui face à ce qu'on appellerait l'impérialisme américain, ou alors la géopolitique mondiale a tellement changé que finalement, les équilibres ont changé aussi, et que c'est pas face aux États-Unis, face à cet impérialisme culturel, que la France défend sa position?
Le soft power américain reste, je pense, l'un des plus puissants et d'ailleurs l'un des plus séduisants au monde. C'est toute sa force de réussir par ce biais-là à pénétrer jusqu'au fond des cœurs et des esprits. Donc cette bataille sur la culture française, évidemment, elle demeure pertinente. Après, elle se pose dans des termes différents. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des GAFA, à l'heure d'Internet, les outils ne sont plus les mêmes et les enjeux se posent de manière différente. Mais l'idée qu'un pays, mais aussi un continent, et en l'occurrence l'Europe, doivent être capables de porter des conceptions, de porter haut et fort des valeurs, des œuvres de l'esprit, ça me reste à mon avis au cœur de tout, et y compris au cœur de la politique.
Mais Mathias Feckel, vous qui êtes ministre du Commerce extérieur, donc vous représentez l'État français, quand vous êtes en déplacement à l'étranger, quels sont les moyens que peut avoir un État, y compris un État qui investit beaucoup dans la culture comme la France, face à ces énormes groupes qui pèse, je le disais tout à l'heure, plus de 1600 milliards de dollars. Je parle seulement des fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Quelles sont vos marges de négociation en réalité? Parce qu'il y a la théorie, les discours autour d'une table de radio, puis il y a concrètement votre métier de tous les jours. Comment ça se manifeste?
Il y a plusieurs choses. Il y a le métier de tous les jours et puis il y a les grandes négociations. Sur le métier de tous les jours, les industries culturelles françaises existent, elles sont puissantes, elles sont reconnues. Nous les avons d'ailleurs fédérées à l'international, avec Isabelle Giordano notamment, qui travaille auprès de la ministre de la Culture et de moi sur ces sujets. Et dans beaucoup de déplacements, les industries créatives et culturelles sont présentes.
C'est-à-dire que vous les emmenez avec vous, en délégation?
Avec nous, elles n'ont d'ailleurs pas toujours besoin. Souvent, elles ont énormément de réseaux et un rayonnement exceptionnel, parce que notre pays, y compris si on a tendance à l'oublier souvent aujourd'hui chez nous, a un rayonnement dans le monde qui passe notamment à travers notre culture, à travers notre langue, qui sont aimées, appréciées, recherchées dans le monde entier. Et ensuite, il y a la manière de faire valoir tout cela dans les négociations, notamment dans les négociations actuelles avec les États-Unis. Mais là, ce sont des positions de principe. Et la France, là-dessus, est extrêmement claire. Il ne peut pas y avoir d'accord, quel qu'il soit, si la question de l'exception culturelle et de la diversité culturelle n'est pas prise en compte et n'est pas pleinement respectée. Ça fait partie de ce qu'on appelle les lignes rouges dans les négociations, et tout le monde l'a bien intériorisé et a bien compris que la France s'opposerait à tout accord si cette question-là n'était pas prise en compte.
On va revenir sur l'évolution des enjeux de l'exception culturelle, parce qu'ils sont probablement assez différents de ceux de l'époque du GATT de 1993, la première exception culturelle. Mais avant cela, Jérôme Clément, la question un peu générale que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que peuvent les États, vous qui venez de publier un livre chez Grasset qui s'appelle L'urgence culturelle, qu'est-ce que peuvent encore faire les États pour garantir ce qu'on pourrait appeler en France, une expression très française, un service public de la culture?
Mais c'est tout à fait fondamental. Là, il y a une question presque de nature philosophique, c'est-à-dire quel est le rôle de l'État, quelle priorité il doit avoir dans la définition de son projet politique. Eh bien, évidemment, pendant très longtemps et depuis très longtemps, s'est élaboré en France un système dans lequel on considère que la culture est un service public, c'est-à-dire doit être proposée aux citoyens comme un des grands axes de leur épanouissement. Alors ça a passé par les maisons de la culture mises en place par André Malraux, par toute la politique qui a été faite ensuite par Jacques Lang et François Mitterrand autour du prix unique du livre, etc., etc. Beaucoup de choses, le doublement des crédits du ministère de la Culture. Mais pourquoi? C'est parce que on considère que dans un secteur qui est aussi fragile et aussi expérimental, le marché ne peut pas garantir la vitalité des artistes et du renouvellement créatif.
On connaît cette idée, mais en même temps, dans votre livre, vous dites c'est terminé, ça c'était une parenthèse, ça a duré, le temps que ça a duré, maintenant, c'est complètement fini. Il n'y a plus de défense, même si Mathias Fekl vient de nous dire, on emmène des gens, Isabelle Giordano, on emmène Audrey Azoulay, mais en fait,
pour deux raisons.
Il n'y a plus de rôle.
Pour deux raisons. D'abord parce que l'État, ces dernières années, et malheureusement la gauche, a réduit les crédits de la culture et les collectivités locales aussi. Et donc, dans une période de crise, on a sacrifié les crédits de la culture, d'une part. Et d'autre part, parce que la mondialisation introduit aussi de nouvelles contraintes sur lesquelles il faut lutter au niveau européen. Et au niveau européen, il ne se passe rien. Donc, on a une double difficulté. On a une difficulté interne en France, dans les niveaux nationaux en général, où la culture est mise à mal. Et on... dans les politiques culturelles. Je ne parle pas de la vitalité des gens. Je parle des politiques culturelles. Et on en a une encore plus énorme à Bruxelles, où il n'y a rien.
Et pour sous-tendre votre démonstration, Jérôme Clément, une phrase de votre livre, à laquelle j'aimerais que Mathias Fekl réagisse, parce qu'elle est peut-être au fondement de tout ce qui se passe aujourd'hui, selon vous, quand vous écrivez « Le Parti Socialiste et la Gauche n'ont rien produit de novateur intellectuellement sur la culture depuis des lustres ». C'est peut-être pour cette raison, en tout cas, si on suit votre démonstration, qu'on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Mathias Fekl ?
D'une manière générale, il y a besoin aujourd'hui en politique de renouer beaucoup avec des idées, avec des projets. Moi, je m'attelle à ça.
Donc, vous êtes assez d'accord avec Jérôme Clément ?
Je reconnais volontiers qu'il y a aujourd'hui un grand besoin de renouveler beaucoup de choses et de formuler des projets culturels. D'ailleurs, Audrey Azoulay travaille beaucoup là-dessus et travaille sur... cette refonte d'un projet culturel. Mais encore une fois, on est dans une autre époque dans laquelle l'idée de politique culturelle doit être portée haut et fort, mais doit intégrer aussi de nouvelles réalités. Le sujet européen, tout à fait d'accord pour dire que l'Europe, là-dessus, aujourd'hui, n'est pas au rendez-vous, même s'il y a des choses. Il y a les capitales européennes de la culture dont vous parlez, il y a Erasmus, qu'il faut élargir, qu'il faut donner à chaque jeune européen la possibilité quasiment l'obligation en réalité de vivre 6 mois dans un autre pays de l'Union. C'est comme ça que l'Europe rentrera dans les cœurs, dans les esprits des gens et deviendra une réalité. Et puis il y a la question de la décentralisation. Avec beaucoup de choses qui sont faites, on est à Bordeaux ici, et dans cette grande et belle région, on a passé avec Alain Rousset beaucoup de temps notamment à numériser.
Vous dites ça, les auditeurs ne le savent pas forcément, vous êtes élu régional aussi au conseil régional.
Absolument, et nous travaillons là-dessus, Alain Rousset, les équipes, la numérisation de toutes les salles de cinéma, et notamment dans la ruralité, pour que le cinéma d'art et d'essai, pour que les petites productions puissent continuer à être visionnées partout, et y compris dans les départements qui n'ont pas forcément des multiplexes. On l'a fait dans toutes les salles de Lot-et-Garonne, je prends cet exemple au hasard, mais dans beaucoup d'autres choses. Donc il y a aussi beaucoup de petits projets qui, mis bout à bout, font les choses. Il y a toute la politique de soutien aux librairies. Moi, quand je vois chez moi, dans le milieu rural, des librairies qui aujourd'hui ouvrent, je me dis que tout n'est pas perdu et que le combat passe aussi par là, au plus près du terrain. Et si nous voulons avoir ce travail-là, y compris face à l'extrême droite et face aux idées néfastes qui ressurgissent, ça passe par un maillage et par le fait qu'il ne puisse dans notre pays y avoir aucun désert culturel.
Mathias Feckel, Jérôme Clément, en même temps j'ai envie de vous poser une question qui traite de l'évolution de l'action de l'État. Est-ce qu'on peut continuer un peu comme avant, en disant faut augmenter un peu les crédits, on ouvre quelques librairies, nous disait Mathias Feckel, et c'est sûrement très important, mais avec le bouleversement numérique, est-ce que ça impose pas une refonte de l'action de l'État? C'est pas seulement l'augmenter ou la faire décroître, est-ce qu'on doit pas la repenser totalement, Mathias Feckel, puis Jérôme Clément?
D'abord, il y a une stratégie numérique à bâtir, nous travaillons là-dessus avec Audrey Azoulay, avec Axel Lemaire, y compris dans les différentes négociations en cours, le TISA, le TAFTA. Et cet aspect-là est absolument essentiel, parce que si on veut de la régulation des règles, face aux GAFA et face là-dessus aux monopoles et en tout cas aux oligopoles américains, il faut se battre pied à pied dans des négociations. Et cette question-là est essentielle, d'autant plus que par ce biais-là, certains voudraient essayer de remettre en cause la diversité culturelle, par ce qu'on appelle les produits numériques. Et c'est pour ça que nous sommes attachés au principe de neutralité du net, au principe que, y compris le e-commerce, ne soit pas la porte ouverte à la remise en cause de l'exception culturelle. Donc ça, c'est des combats de demain, et c'est des combats d'aujourd'hui d'ailleurs déjà, qui sont absolument indispensables et qui sont de nouveaux champs d'action politique.
Jérôme Clément ?
Oui, enfin, moi je suis d'accord en partie, parce que il faut pas non plus que les arbres cachent la forêt. La question du numérique, le numérique c'est une technique qui bouleverse beaucoup de choses, mais l'essentiel, je passe mon temps à le répéter, c'est les contenus. C'est quand même le contenu. Alors faut pas se dire d'un seul coup le numérique, ah là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer. Non, l'essentiel c'est quand même d'avoir des créateurs qui créent, à qui on des moyens nouveaux et qui ont des moyens nouveaux de diffusion. Donc il faut pas cacher un problème politique de fond par un problème technique et technologique.
Vous trouvez que l'actuel pouvoir parle un peu trop des tuyaux et pas
oui,
assez des contenus?
Oui, bien sûr. Ah bah, non seulement je le trouve, mais je trouve ça dramatique. Quand on pense que certains envisagent d'appeler le ministère de la Culture le ministère des Industries Culturelles, et qu'on crée un secrétariat d'État au numérique, et que tout le monde maintenant laisse passer sous silence ou passe sous silence le fond des choses, quoi. Le fond des choses, c'est qu'on a besoin d'écrivains, de peintres, d'artistes, d'hommes de théâtre, etc., qui expriment des pensées et qui font passer des émotions. C'est ça qui compte.
Mathias Feckel.
Moi, je suis d'accord là-dessus. D'ailleurs, c'est Jérôme Clément qui a parlé des contenus, pas moi. Moi, je parle beaucoup plus volontiers d'œuvres, d'œuvres de l'esprit, d'œuvres de la création. C'est effectivement ça l'enjeu. Ce qui reste à la fin d'une époque, ce sont ses créations et ce sont les œuvres de l'esprit.
Alors on va écouter José Manuel Barroso, parce que là on est au cœur de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la place de l'Europe, et puis ce fameux traité que vous négociez, Mathias Feckel. Il était à l'époque président de la Commission européenne, et c'était, il évoquait un bras de fer avec le gouvernement français, à l'époque incarné et représenté par Arnaud Montebourg, qui avait eu des déclarations assez vives et tonitruantes à son égard. José Manuel Barroso.
Moi, j'ai toujours dit que pour moi, l'exception culturelle, c'est sacré. Qu'on ne doit pas faire le marchandage de la culture, qu'il y a une spécificité dans la culture, que nous avons des règles en Europe que nous voulons garder, en termes soit de quotas, soit de la possibilité de subvention pour les biens culturels. Il y a eu une polémique, à mon avis, absurde, comme si moi-même ou la Commission, nous étions contre la diversité culturelle. C'est faux, absolument faux. Il serait bon que certains responsables politiques comprennent que ce n'est pas en attaquant l'Europe et en essayant de faire de la Commission le bouc émissaire de ses propres difficultés qu'ils allons arriver très loin. Dans le passé, on a déjà vu que ça ne mène nulle part. Moi, j'ai toujours dit mon grand respect pour la culture, pour la France, et pour l'Europe. Et ce que je n'aime pas voir, c'est que certains, finalement, souverainistes de gauche, font exactement le même discours que l'extrême droite.
Alors on a du mal à comprendre, parce que là, on a un José Manuel Barroso qui se présente, qui se targue d'être le héros de la défense de la diversité culturelle.
Et c'est un menteur.
Et pendant, c'est la question que je voulais vous poser, c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que le gouvernement français, on l'a entendu très vivement attaquer justement. Alors qu'en est-il, Jérôme Clément?
Quand Costa Gavras est allé à la tête d'une délégation d'artistes voir Manuel Barroso, il les a envoyés promener. La réalité, c'est qu'il tient un langage comme ça, et puis la réalité n'est pas du tout celle-là. Toute l'action de la direction de la concurrence est en fait de démanteler toutes les aides d'État et de démanteler tous les systèmes d'aide à la culture. Donc Barroso tient un discours devant un certain public, mais la réalité de sa politique n'était pas du tout ça. Il se fiche complètement de la culture, Barroso.
Alors, on est l'héritier de cette période, Barroso, Mathias Feckel?
En tout cas, il est le symptôme d'une vieille Europe qui ne fonctionne plus. Et en réalité, ces gens-là contribuent à être les fossoyeurs de l'Europe. Moi, je le regrette, étant vraiment un Européen convaincu, on voit bien que ce genre de choses ne fonctionne pas. Ce que je peux dire sur les négociations qui sont en cours, pour le coup...
D'où on part d'abord ?
D'où on part ? On part sur le sujet culturel, maintenant, non pas d'un consensus européen. Il y a beaucoup d'États en Europe qui ne sont absolument pas sur notre position, mais sur l'idée que tout le monde a intégré, que de toute façon... la France n'accepte pas, je le disais tout à l'heure, de signer des traités dans lesquels la diversité et l'exception culturelle ne sont pas préservées. Et donc, là-dessus, il y a un état de fait qui est reconnu.
Dans ce combat, justement, pour l'exception culturelle, nouvelle version, qui sont les alliés, qui sont les adversaires de la France aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pays qui sont vraiment dans le camp adverse au sein de l'Union européenne? Est-ce qu'il y a des pays vraiment qui soutiennent la France? Ou est-ce que ça évolue un peu
en fonction des négociations? Il n'y a pas énormément de pays qui sont aussi exigeants que nous sur cette question-là. Mais honnêtement, il n'y a pas de front contre nous sur ce thème-là. Il y a suffisamment d'autres fronts compliqués, y compris en matière agricole, y compris en matière de transparence, sur beaucoup d'autres sujets. Je ne rentre pas là-dedans dans le cadre de cette émission. Mais sur la culture, maintenant, il y a, en tout cas dans les négociations qui sont en cours, vraiment l'idée que de toute façon... C'est pas possible autrement parce que la France ne l'acceptera pas.
Mais alors ce traité, parce qu'on en entend beaucoup parler et en même temps personne ne comprend vraiment de quoi il s'agit.
Il y a une pour cause, puisque tout est opaque.
Tout est opaque. Bon, alors vous allez essayer de briser un peu cette opacité, nous donner un peu de transparence. Je disais que vous étiez chargé au nom de la France des négociations sur ce TAFTA, donc comme on dit. Ça veut dire quoi? Vous y passez combien de temps? C'est avec qui que vous négociez? Où ça se passe? Et quelle place occupe la culture là-dedans?
Alors vous savez que d'abord on négocie très peu de culture. C'est-à-dire sur ce sujet, moi je me bats suffisamment sur beaucoup de thèmes pour pouvoir là-dessus dire que vu que nous souhaitons que la diversité et l'exception culturelle soient respectées, en fait la culture prend peu de place dans les négociations et tant mieux. Moins on parle de culture dans ces négociations, mieux c'est. Et aujourd'hui, le mandat là-dessus est très précis. Nous sommes très attentifs, c'est pour ça que j'évoquais ça tout à l'heure, à ce qu'on ne rentre pas par la petite porte du numérique pour remettre en cause des principes fondamentaux. Mais aujourd'hui, dans les négociations, c'est pas le cas. On y passe énormément de temps, toutes mes équipes aussi. Vous savez que c'est l'Union européenne qui est à la table des négociations, mais que chaque pays, évidemment, suit très près les choses. Moi, j'ai obtenu, après beaucoup, beaucoup d'insistance auprès des États-Unis, que les parlementaires, désormais, puissent avoir accès aux documents dans nos capitales, dans nos administrations et non plus dans les locaux de l'ambassade américaine. Je me bats beaucoup aussi, et ça fait un lien avec la question culturelle, sur et contre la question des tribunaux privés d'arbitrage pour les remplacer par une cour de justice commerciale internationale.
Pourquoi ça joue un rôle dans la culture?
Pourquoi? Parce que si on continue à avoir d'un côté de la dérégulation à tous les étages et une progression du néolibéralisme, ce qu'indiquait Jérôme Clément tout à l'heure, si on a par ailleurs des oligopoles comme ils existent aujourd'hui, eh bien, demain, toute une série de règles dans le numérique, dans la culture, mais aussi dans notre vie de tous les jours, seront réglées par des tribunaux privés saisis par des multinationales. C'est évidemment inacceptable pour tous ceux qui croient au service public et qui croient dans le rôle de la puissance publique, d'où un combat là-dessus extrêmement cohérent et qui demain peut aussi avoir des répercussions en matière culturelle.
Jérôme Clément, justement, quand on entend Mathias Feckel nous dire qu'il y a des risques de prise en compte de tribunaux privés, de remise en cause du droit d'auteur tel qu'on le connaît, est-ce que c'est pas ça la grande différence avec l'exception culturelle de 93, dont vous avez été un des grands acteurs à l'époque à la tête d'Arte? Est-ce que le danger, c'est pas qu'en fait, justement, on puisse imposer certains contenus, mais que la guerre des tuyaux soit plus importante et qu'elle empêche finalement d'imposer notre exception.
Bien sûr, c'est bien sûr. Moi, je suis heureux d'entendre ce que dit Mathias Fekl, parce que comme on ne sait rien de cette négociation, on a l'impression que c'est un sujet fondamental dont les citoyens sont complètement absents. Et ça, c'est un sujet. Bon, mais ce qui est certain, c'est que il y a un risque qui est celui que vous indiquez. C'est la mainmise finalement des GAFA sur l'ensemble de tous les systèmes nucléaires. Ça ne fait que rendre encore plus vif le regret qu'on a que l'Europe n'ait pas été capable de monter des industries culturelles européennes. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit quand on regarde rétrospectivement que il y a eu beaucoup d'efforts pour démanteler les systèmes de concurrence, y compris internes à l'Europe. Mais il n'y a pas eu de politique industrielle européenne, dans le domaine culturel notamment. Et si on avait dit à M. Bertelsmann, à M. Lelay à l'époque, ou M. Bouygues, à d'autres acteurs, Hachette, etc., au lieu d'aller commercer avec les États-Unis, rassemblez-vous et faites des industries européennes, de la culture, on n'aurait pas ces difficultés aujourd'hui avec les Américains. Et là, ça prouve que cette conception de l'Europe, qui a été complètement fondée sur le démantèlement des règles nationale pour en faire un modèle entièrement dérégulé, est une catastrophe, parce que ça nous prive d'outils majeurs aujourd'hui pour développer l'industrie culturelle européenne.
Mathias Fekl, vous disiez il y a un instant que moins on parlait de la culture dans le cadre de ces négociations TAFTA, mieux on se portait, d'une certaine façon.
Oui, parce que les principes sont fixés.
Voilà, parce que les principes sont fixés. Une tribune publiée il y a quelques mois dans le Figaro par Fabrizio Tribuzio Bugatti, j'espère que je le prononce bien, qui disait quand même TAFTA, deux points, la destruction de la culture française, et il évoquait notamment le point précis du droit d'auteur. Est-ce que c'est pas là qu'il y a quelque chose quand même sur lequel il faut tenir ?
Nous tenons sur l'ensemble des sujets culturels.
Mais il évoquait ce point-là comme étant particulièrement important.
Sincèrement, il est important, mais au vu des négociations, moi je ne tire pas aujourd'hui de sonnette d'alarme sur ce sujet-là. Nous tiendrons sur la question de la diversité culturelle, comme sur la question de la diplomatie des terroirs, comme sur la transparence, comme sur beaucoup d'autres choses. Moi je suis favorable à l'open data sur ce thème-là pour que les gens sachent. Mais toutes ces lignes rouges qui ont été définies par la France seront respectées. En tout cas, pour nous, ce sont des conditions sine qua non.
Jérôme Clément, le mot de la fin, vraiment en 30 secondes, sur l'enjeu de cette exception culturelle version 2016. Ça serait quoi ? Si vous étiez, vous, responsabilité, vous défendriez quoi en priorité ?
L'enjeu, c'est que on crée une société dans laquelle on n'est pas en permanence soumis à des questions de réglementation économique
C'est pas un peu idéaliste de dire ça.
Heureusement qu'il faut de l'idéalisme quand on fait de la politique. Si on fait pas d'idéalisme, qu'est-ce qu'on fait? On gère uniquement des choses sans intérêt, des conflits. Bien sûr qu'il faut un idéal, mais cet idéal, il est fondamental pour l'être humain. C'est tout.
Mathias Fekl, sur ce que vient de dire Jérôme Clément, et pour conclure sur TAFTA, puisque comme on ne sait pas trop ce qui se passe, quand est-ce que s'arrêtent les négociations? C'est quand le point final, c'est quand?
Ça, on n'en sait rien. Le point final sera...
Il n'y a pas de deadline qui a été fixé.
Non, il n'y a pas de deadline. Moi, ce que j'ai indiqué, c'est que si les choses ne bougeaient pas de manière substantielle dans le courant de cette année, la France en tirait les conséquences. Mais il n'y a pas de deadline.
C'est-à-dire en se retirant des négociations, par exemple ?
Oui, bien sûr. Si ça ne bouge pas sur les grands sujets qui ne sont pas culturels, évidemment, ce sera le cas. En tout cas, moi, c'est la position que je porterai. Mais je veux simplement dire un mot sur ce qu'a dit Jérôme Clément. Évidemment, tout le désenchantement, toute la crise démocratique que traverse notre pays vient aussi... C'est lié à la période, mais de l'absence de rêve, de l'absence d'idéal, d'une politique qui trop souvent s'enfonce dans la gestion et dans des préoccupations court-termistes. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que ma génération politique a aussi le devoir de renouer avec cette volonté-là, fixer des règles, mais surtout essayer de faire rêver, de renouer avec les plus hautes ambitions possibles.
Réenchanter le rêve français, c'est ce que disait François Hollande il y a 4 ans.
Oui, mais le contexte est très dur. C'est pas une baguette magique du président de la République qui va faire ça. C'est une mobilisation de la société tout entière qui seule pourra le permettre.
Non, mais on n'a pas voté uniquement pour savoir si on respectait les règles de 3% à Bruxelles.
Mais ça, on est tout à fait d'accord. Simplement, là, il y a des débats qui s'ouvrent. C'est un mal français sous la Ve République que de croire qu'un seul homme, élu tous les 5 ans, va par miracle régler tous les problèmes du pays.
On va devoir s'arrêter là. Merci Mathias Fekel et Jérôme Clément. Merci à tous d'avoir suivi cet Atelier du Pouvoir, une émission de Vincent Martini et Thomas Vider, préparée par Cyril Baer, réalisée par Doria Zénine, chargée de production aujourd'hui depuis Bordeaux, Jean-Christophe Perrin, à la technique Marcos Daras et Hervé Dubreuil. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mon cher Vincent, et pour parler de quoi ?
Eh bien, nous parlerons des usages politiques de l'identité nationale avec Ségolène Royal.
Qui nous reviendra sur son combat sur l'identité nationale au moment de la campagne de 2007, notamment. C'est bien noté. À la semaine prochaine pour un nouvel Atelier du Pouvoir. Tout de suite, Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Bon week-end à tous sur France Culture. Thank you.